Bonjour Irène.
Bonjour Hervé Gardette. La révolution numérique est partout dans nos vies. Et à l'occasion de la mise en place du nouveau site de France Culture, qu'évoquait René Friedman, et aussi son audiothèque documentaire, nous l'explorons. En France, cela fait belle lurette que plusieurs pionniers s'intéressent à la chirurgie du futur. Il y a eu l'endoscope, puis les outils robotisés assistés par ordinateur.
Et parmi ces pionniers français, Irène, il y a Jacques Maresco.
Oui Hervé, il a réalisé en 2001 une ablation de la vésicule biliaire sur une patiente à Strasbourg, alors qu'il se trouvait à New York. Il a été mis en lumière en 2013 quand la Chambre d'industrie et de commerce de Paris lui a remis le prix de la personnalité numérique de l'année. Il a créé l'IRCAD, Institut de recherche contre les cancers de l'appareil digestif, où viennent chaque année des milliers de chirurgiens en provenance du monde entier. Alors, dans Sur les Docs, bienvenue au bloc opératoire connecté où se joue la chirurgie du futur. Une précision, chirurgiens et robots se situent à Hong Kong.
Non, je disais, quand on regarde la qualité maintenant de l'image de visioconférence, donc ça c'est une visioconférence par internet, on est plongé dans le corps du malade qui est opéré à Hong Kong, qui est opéré par robotique, une grosse opération, hein, d'ablation du pancréas, et la qualité pour la formation c'est extraordinaire. Avant, il y a encore quelques années, on était obligé de faire 36 lignes téléphoniques, ça veut dire que si on était à Hong Kong, on paye sur 3 heures, c'était 3 heures fois 36 appels. Qu'on payait, ça faisait 2, 3, 4 000 euros pour faire une séance de connexion d'une heure, alors que là, on a une qualité nettement supérieure et gratuite.
Et alors ici, Jacques Maresco, on se trouve dans la régie au-dessus de l'amphithéâtre de formation.
Oui, alors vous voyez, là, on a un amphithéâtre qui est plein. Hein, ils sont à 115, ils viennent de 42 nationalités différentes. Et vous voyez que chaque chirurgien a son micro, c'est que chaque chirurgien peut, s'il le souhaite, parler au chirurgien de Hong Kong qui est en train de faire sa démonstration pour lui demander quelque chose, s'il n'a pas tout compris. Et au premier rang, donc vous voyez, d'abord il y a les trois, ce qu'on appelle les trois chairmen, il y en a un qui vient d'Autriche, il y en a un qui vient de Suisse, il y en a un qui vient du Japon. Et le premier rang sont des experts qui viennent là aussi du monde entier. Il y a trois Japonais, un Coréen, deux Américains. Et c'est eux qui stimulent la salle pour poser des questions, pour que le cours soit en fait le plus interactif possible.
Et là, sur le grand écran de l'amphithéâtre, au-dessus des chairmen, on voit l'image même qui est prise par la caméra, qui est placée dans l'abdomen du patient.
Oui, et qui est à Hong Kong. Et en fait, on voit nous sûrement encore mieux que ce que le chirurgien voit, parce que le chirurgien voit ça dans sa boîte et il voit ça sur un écran qui doit faire à peu près 10 cm. Et nous, on a un écran qui fait 3 mètres de large. Donc en fait, on voit encore mieux les détails que ce que le chirurgien voit. Donc c'est réellement des progrès fantastiques de technologie d'information.
Révolution numérique au bloc opératoire.
Oui, c'est super.
Par Élise Gruau et François Test.
C'est bien.
Il fait quoi comme opération?
Ça, c'est une des plus difficiles. C'est l'ablation d'une tumeur de la tête du pancréas, ce qu'on appelle une duodéno-pancréatectomie céphalique. Donc, il enlève le pancréas, le duodénum, la voie biliaire. Tout ça, il a fait en robot. Il a commencé il y a 4 heures. Et là, on voit l'anastomose, la suture, qui est le geste le plus dur. Mais lui, il le fait tellement. C'est tellement évident à faire avec le robot. Tout est vraiment quelque chose de tout à fait coulant dans le geste. C'est à la fois des beaux gestes. Vous voyez qu'il n'y a pas une goutte de sang pour une opération majeure. Il n'y a pas de sang. Pourquoi? Parce que dans ces nouvelles technologies, si vous avez du sang, le sang va sur la caméra, sur l'optique, et donc vous ne voyez plus rien. Donc c'est obligatoirement beaucoup plus propre. Et on sait que dans la chirurgie, surtout la chirurgie du cancer, s'il n'y a pas de perte de sang, il y a une réaction immunitaire du malade nettement supérieure par rapport à s'il saignait beaucoup. Donc c'est une amélioration énorme du geste opératoire.
À l'ère du numérique, tout un vocabulaire nouveau a pénétré jusqu'au monde médical. réalité augmentée, clone virtuel du patient, chirurgie mini-invasive guidée par l'image. La chirurgie de demain sera sans cicatrice ou presque, plus rapide et moins risquée, guidée par des images en haute définition, assistée par des robots ultra performants. En fait, elle est déjà à l'œuvre aujourd'hui. C'est à l'IRCAD à Strasbourg, Institut de recherche contre le cancer de l'appareil digestif, créé sur le campus de l'hôpital public, et c'est aux côtés de son fondateur, le professeur Jacques Maresco, pionnier de la chirurgie robotique depuis 20 ans et adepte des premières mondiales, que nous nous initions à la révolution médicale permise par les nouvelles technologies. Ici, chirurgien, ingénieur, industriel, créateur de start-up biomédicales, travaille de concert pour inventer la chirurgie de demain. Des experts venus du monde entier viennent se former dans cet institut à la pointe du progrès. Fort de ses succès, deux nouveaux IRCAD sont déjà apparus, à Taïwan et au Brésil. À ceux qui redouteraient une déshumanisation de la médecine, tout semble ici promettre progrès et bien-être partagé.
Quand on imagine la révolution chirurgicale, elle a vraiment eu lieu, je dirais, dans les années un peu avant les années 90, 1988. C'est ce que les Américains appellent la Second French Revolution. C'est-à-dire que en 1988, un Français qui s'appelle Mouret, qui était à Lyon, tout d'un coup, s'est décidé à faire la première opération digestive, qui était l'ablation d'une vésicule biliaire, donc opération pas très complexe, mais il l'a fait avec ce qu'on appelle un endoscope, c'est-à-dire une petite caméra que vous mettez dans le ventre, donc il a fini les grandes cicatrices. Ça a été difficile pour lui, il le raconte, parce que bien sûr c'était quelque chose de nouveau, l'opération a été beaucoup plus longue qu'une opération normale, mais il a toujours raconté que le soir, il a confondu la malade qui venait d'opérer et la malade qui devait être opérée le lendemain. Et ça, pour nous, c'est un signe, parce que un malade qui était opéré, même d'une ablation de vésicule, avec souvent une cicatrice importante, eh bien, je peux vous assurer que le soir, on savait quel était le malade qui était opéré. Donc ça, ça a été la plus grosse révolution qui existait en chirurgie. Et ensuite, tous les progrès et tout ce qu'on appelle la chirurgie, notamment assistée par ordinateur, ont pu naître par cette chirurgie mini-invasive, qui est en fait la révolution dite française en chirurgie.
Et qu'est-ce que c'est que cette chirurgie assistée par ordinateur ?
En fait, la chirurgie assistée par ordinateur, c'est bien sûr avoir un robot qui va permettre d'améliorer le geste du chirurgien, c'est bien sûr important, et le type de robot qui existe actuellement sur le marché, vous avez à imaginer qu'ils analysent 1000 signaux par seconde du geste du chirurgien. C'est-à-dire que, bien sûr, suppression du moindre tremblement, si vous avancez votre main de 1 cm, le bras armé du robot va avancer seulement de 1 mm, donc une précision qui va être beaucoup plus importante. Mais c'est une relation qu'on appelle maître-esclave, c'est-à-dire que le chirurgien, c'est lui qui opère, et puis ensuite, son geste est amélioré. Donc vous imaginez qu'il est devant une énorme console d'ordinateur qui est une intelligence artificielle. Et c'est là où la définition de chirurgie assistée par ordinateur est importante, puisque dans cette console, on va devoir amener des tas d'informations que le chirurgien n'avait pas. On va essayer d'augmenter les 5 sens naturels. Et notamment, qu'est-ce qu'un chirurgien rêve de voir améliorer ? C'est la vision.
Ça a l'air facile, mais c'est dur en fait, non ?
Oui, carrément,
ouais. Avec le bras propre, peut-être vous rapprocher un peu pour lui faciliter la récupération.
Vous êtes plus doué que moi, faites aidez-moi.
Voilà.
Alors on est bien là ?
Ouais.
Ça va là ?
Ouais, elle est vide, la vessie. Ouais,
allez, je me retire.
Vous pouvez l'ouvrir un petit peu plus, ça me permettra de faire un surjet tout à l'heure.
Non, j'ai pris un peu de chaud là. Difficile. Génial.
Oui, comme ça.
Jacques Maresco, vous êtes à l'origine de plusieurs premières mondiales en chirurgie et notamment en 2001 de la première opération qui a été réalisée à distance, que vous avez baptisée l'opération Lindbergh.
Tout le monde connaît la télémédecine et les progrès de la télémédecine, même si c'est long. La télémédecine, on partage la connaissance, on partage l'intelligence. Mais si vous voulez appliquer la télémédecine à la chirurgie, ce qui s'appelle la téléchirurgie, donc la chirurgie à longue distance, vous devez partager le geste. Alors ça, c'était une barrière technologique phénoménale. L'armée américaine, nous on a fait en 2001, mais ça faisait 10 ans qu'ils essayaient de faire des gestes avec uniquement une implantation d'aiguille, et ils n'avaient jamais réussi. Pourquoi ils n'ont jamais réussi ? Parce qu'ils n'avaient travaillé que sur les connexions par satellite. le satellite, c'est 600 millisecondes de délai. 600 millisecondes, ça paraît rien, mais on ne peut pas opérer avec 600 millisecondes. Puisque, si vous voulez, si vous êtes, par exemple, près d'une artère, au moment où vous voyez votre image, vous êtes près de cette artère, avec 600 millisecondes de délai, vous pouvez être, justement, dans l'artère et donc blesser l'artère. Donc, c'était impossible. Et ça, c'était un challenge technologique énorme. Donc, nous, on a travaillé avec Alcatel au départ, France Télécom, et ce qui a été extraordinaire, c'est quand on voit les programmes de l'armée américaine sur la téléchirurgie, qui ont coûté, je pense, des centaines de millions de dollars, et quand on voit que toute la réussite de cette opération a été faite par deux jeunes ingénieurs de France Télécom de 32 ans. Vous voyez, de temps en temps, la créativité, le génie, on n'a pas besoin d'être 200. Et donc, ils ont réussi pour la première fois, par des codecs spéciaux qu'ils ont développés, à faire des compressions. Ce qu'il faut, c'est faire des compressions des signaux. Et puis, cette opération a été possible. Alors, c'était quoi l'opération Lindbergh? C'était une opération où on avait décidé de faire l'ablation d'une vésicule biliaire, ce qu'on appelle une cholécystectomie, chez une malade située à Strasbourg, et moi-même étant à New York. Donc, on a fait cette démonstration que tout d'un coup, en fait, un chirurgien pouvait être à l'autre bout du monde et faire un geste avec une précision extrême, puisque vous imaginez qu'en chirurgie, on doit faire un geste d'une grande précision. On a été les premiers, c'est vraiment l'IRCAD qui est le premier. Ça veut dire que plus aucune équipe chirurgicale dans le monde, dans quelques années, sera isolée pour un nouveau geste chirurgical. Il faut imaginer comment ça se passe actuellement. Vous avez une équipe qui doit faire une nouvelle intervention parce qu'elle a été décrite dans les congrès, qu'on l'a vue en vidéo, etc. Donc l'équipe doit faire cette première intervention. Mais c'est difficile de faire une première intervention. Tout le monde sait ce qu'on appelle, en anglais, ils appellent ça la learning curve. Ça veut dire que pendant les 20 premiers malades que vous opérez, vous n'avez pas, bien sûr, la même connaissance que vous pouvez avoir après. Actuellement, comme il n'y avait pas de moyens techniques, tout le monde fait avec. Je pense qu'ensuite, ça, dans les années qui viennent, ça sera impossible. C'est-à-dire que quand vous faites une première intervention chirurgicale, celui qui sera n'importe où dans un autre centre pourra prendre les manettes à un moment pour dire non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça, comme à l'auto-école, le moniteur qui peut freiner. Donc, ce partage du geste qui maintenant n'a plus de limite géographique est un progrès immense, pas maintenant pour l'instant parce que c'est encore très cher, parce que on ne peut pas le faire par Internet, même sécurisé, parce que si un hacker peut aller sur le site de la CIA, vous imaginez qu'il pourrait rentrer dans une intervention chirurgicale. Donc pour l'instant, ces lignes qu'on appelle ATM à longue distance coûtent une fortune. Mais disons que c'est sûrement l'une des voies de la chirurgie de demain. Est-ce que ça va être 5 ans, 10 ans, 20 ans? Ça dépendra aussi des répercussions économiques.
L'IRCAD a fêté ses 20 ans à la brasserie des Haras le 12 juillet 2014. Une fête placée sous le signe des trois cultures, française, taïwanaise et brésilienne. Plusieurs animations ont rythmé cette soirée. Une invitation au voyage, à travers des danses et musiques traditionnelles.
Jacques Maresco, comment avez-vous eu le projet de l'IRCAD?
Pourquoi on a créé l'IRCAD? Moi, quand j'étais interne en chirurgie, puis chef de clinique en chirurgie, puis professeur, je me suis aperçu que en France, il était extrêmement difficile de faire de la recherche dans notre spécialité, c'est-à-dire de faire de la recherche chirurgicale. Pourquoi? Parce que à cette époque-là, faire de la chirurgie expérimentale, essayer de développer des nouveaux outils, s'intéresser justement à l'ordinateur pour le diagnostic ou pour aider le geste opératoire, ça n'était pas une science. C'était considéré un peu comme un gadget. Et on sait que l'INSERM, qui à l'époque devait pourtant pousser les gens dans l'innovation dans le domaine de la santé, eh bien ne rêvait que de biologie moléculaire et que nous, à côté, on faisait pas sérieux. Et donc, on s'est dit, puisque c'est pas possible de le faire dans une structure existante, créons notre propre structure dont on pourra définir les règles parce que on souhaite innover dans le domaine de la chirurgie. Et c'est là qu'on a eu l'idée de créer l'IRCAD.
Et qu'est-ce que vous vouliez avec l'IRCAD?
Alors, avec l'IRCAD, c'est simple, on voulait déjà flexibilité et indépendance. Si on travaille dans l'innovation et dans l'innovation thérapeutique, on peut pas attendre, par exemple, d'une université un an pour avoir le feu vert ou pour avoir le budget pour faire un programme. C'est impossible. Tout va tellement vite dans le domaine des technologies, notamment de l'information, qu'il fallait vraiment flexibilité et liberté. On a travaillé très dur pour avoir un financement de Stryker à l'époque, maintenant de Storz, etc. Je pense qu'on a été l'un des premiers modèles en France à se dire qu'il fallait travailler avec les industriels, qu'il fallait pas considérer que les industriels, c'était les sales capitalistes qui voulaient de l'argent parce qu'ils voulaient vendre. J'ai apprécié l'éthique des industriels, j'ai apprécié la manière dont ils poussaient toute l'équipe a travaillé parce qu'on a des comptes à rendre et qu'on savait, on sait très bien, encore maintenant aujourd'hui, si nos partenaires ne sont pas contents de ce qu'on fait, eh ben, ils nous couperont les vivres. Donc c'est un peu différent du système public. Donc on aime bien ce mélange entre système public et privé dans l'Institut.
Au printemps 2016, ouvrira à côté de l'IRCAD une nouvelle structure, appelée IHU, ou Institut de chirurgie mini-invasive guidé par l'image, où toutes ces technologies et ces recherches seront mises au service du patient. Déjà, dans les locaux en construction, nous voyons des machines fonctionner. D'immenses arceaux munis de capteurs tournent tout autour de la table d'opération. Elles permettront d'analyser et de visualiser l'évolution de la pathologie du patient en cours d'intervention.
Alain Patron, je suis directeur de projet, des projets stratégiques pour Siemens France. Et en particulier, dans ce cadre de ce projet, je suis directeur du projet pour l'IHU de Strasbourg, pour la part Siemens.
Où est-ce qu'on se trouve ici et face à quel appareil ?
Alors ici, on est dans une salle interventionnelle avec trois équipements d'imagerie qui correspondent aux équipements que nous avons livrés en 2012. Vous avez un scanner, un échographe et un ampli bloc. Donc, que l'on essaye de combiner ensemble pour en fait travailler sur l'interventionnel.
Qu'est-ce que c'est l'interventionnel ?
L'interventionnel, c'est des opérations en bloc opératoire et dans lequel on vient mettre de l'image en plus. Et en fait, ce que l'on est venu apporter en plus de ce que faisait l'IRCAD, c'est l'aspect imagerie. Pour Siemens, c'est un projet qui était stratégique. On était déjà dans la recherche interventionnelle, on était déjà sur cette thématique. Ce qui est novateur ici, c'est d'avoir un site globalement intégré et qui est dans le mini-invasif, guidé par l'image.
Donc pour une industrie comme Siemens, il y a un gros retour. Vous avez la capacité d'atteindre des marchés qui n'étaient pas atteignables avant ou...
Mais c'est surtout qu'on a la capacité d'atteindre des marchés qui n'existait pas forcément avant. Donc aujourd'hui, on est dans un domaine de recherche et bien évidemment, les précurseurs, ils seront en place sur le marché. On en aura la compréhension, on saura comment ça fonctionne, on en aura les explications et les contraintes. Donc à ce moment-là, bien évidemment, on sera beaucoup plus en avance que d'autres qui voudraient oublier ce secteur-là, qui est pour nous, avant le projet de l'IHU, était déjà un domaine stratégique.
Est-ce que ces machines de dernier cri, de très haute technologie, sont accessibles à tous les pays ?
On est présent au niveau médical dans plus de 190 pays au monde. On travaille au niveau healthcare dans plus de 190 au monde, sur la partie imagerie en particulier. Et j'ai des expériences de contrats que l'on a sur la partie Afghanistan, qui ont des machines tout à fait équivalentes à ce que l'on voit ici et qui fonctionnent très bien, où les médecins sont formés, où il y a des échanges bilatéraux. Donc oui, On exporte ces machines en dehors de la France et en dehors, je dirais, des pays qui sont dans les pays qui sont dits émergents.
L'évolution de l'IRCAD, hein, je connais bien sûr tous les tournants et toutes les dates importantes. Hein. 1992, on a eu l'idée de faire l'IRCAD, sans un centime. 1994, inauguration de l'IRCAD. Les cours qui ont commencé ont formé à peu près 150-200 chirurgiens par an. Et ensuite, une explosion quelques années d'après, en 1997. Explosion, et surtout celle-là, explosion de l'école, par le nombre de chirurgiens, et explosion de la partie ordinateur, de la partie ce qu'on appelle computer science aux États-Unis. Et donc on s'est dit, on n'a plus assez de locaux, il faut augmenter, il faut recruter des ingénieurs spécialisés dans ces technologies de l'information, et ça c'est 2000. Donc on avait un premier immeuble qui faisait 4500 m², on a immédiatement construit un deuxième immeuble aussi de 4500 m², mais dans la continuité, on avait déjà prévu à l'avance qu'on pourrait l'étendre, et là ça a été la réussite à la fois en recherche, parce qu'on a été l'une des équipes les plus puissantes dans le monde à travailler sur le domaine de l'image, de l'imagerie virtuelle, du clone digital du patient, qui était quelque chose qui était très délaissé. Donc on a pris une grosse avance dans ce domaine et l'école a explosé, c'est-à-dire la notoriété de l'école a explosé à partir de 2000, de 2000 à si vous voulez, à maintenant. C'est quelque chose qui est très important, puisque de l'école, actuellement, on forme, l'année dernière, on a formé plus de 5000 chirurgiens venant de 117 pays différents. Donc vous imaginez quand même une Strasbourg, petite ville en France, des gens qui font un aller-retour pour 3 jours, qui viennent d'Indonésie, qui viennent du Japon, qui viennent d'Amérique latine. Donc ça a été vraiment un gros succès. Ensuite, il y a 2 ans, donc 2013, encore un autre boom, puisque on doit encore s'agrandir. Donc on crée l'IRCAD, qu'on a créé IRCAD 2, qui était encore 4000 m², avec surtout une raison majeure, c'est faire aussi notre formation en robotique chirurgicale. Et puis on a d'autres projets. L'IRCAD a sans arrêt d'autres projets. L'IRCAD a été fondateur et initiateur d'un énorme projet IHU, vous savez, des investissements d'avenir, où l'État, pour créer un centre d'excellence en chirurgie, a quand même mis 70 millions d'euros. Mais il fallait qu'on montre qu'on ait au moins la même chose de partenaires privés. Et en fait, on a trouvé 150 millions d'euros supplémentaires. On a construit un institut qui est un institut de chirurgie mini-invasive guidé par l'image, qui va être vraiment une plateforme pour les malades unique au monde, qui est extraordinaire, avec aussi un gros partenariat avec des compagnies comme Siemens. Donc vous voyez, ça évolue. Et puis alors, ça évolue encore, puisqu'on se dit, mais la prise en charge des malades va changer. Le malade est de moins en moins agressé. Et il faut qu'il reste le moins à l'hôpital possible, puisque c'est là où il y a des maladies nosocomiales. Donc construisons un hôpital, c'est-à-dire un hôpital où on va pouvoir le décharger de l'hôpital à 48 heures, Mais on sait aussi que le malade, s'il est déchargé à 48 heures, il veut être sûr qu'il est bien contrôlé. Et là, on a une chance inouïe dans les progrès de l'information, puisque on peut avoir depuis pas longtemps, et ils sont en test, des patchs qui sont de la taille d'un patch de nicotine que vous mettez sur votre malade. Et par Internet sécurisé, vous avez 7 paramètres vitaux qui sont enregistrés, électrocardiogramme, respiration, température, détection de chute, etc. Donc, si vous voulez, ce monde de l'information va tellement vite que ça va changer la prise en charge des malades pour beaucoup moins cher, et surtout lui éviter, qu'est-ce qui est le surcoût en médecine? C'est la complication. Et dans un service de chirurgie, c'est souvent la complication infectieuse, dite nosocomiale, qu'on voit dans tous les journaux. Il y a tellement de germes qui se promènent dans un hôpital, et on sait que si le malade part à 24-48 heures de l'hôpital, bah, ça n'existera pas, parce qu'il sera dans un milieu normal, un milieu ouvert, quand même milieu d'hôtel. Et donc l'IHU, c'est vraiment la continuité, puisqu'on a été fondateur de l'IHU, on a écrit la totalité du dossier. C'était vraiment se dire tout ce qu'on est en train de faire à l'IRCAD, à la fois pour que le malade puisse en bénéficier un jour, tout ce qu'on fait en éducation, ben il faut maintenant le mettre en pratique. Et le mettre en pratique, c'était avec des nouveaux appareils de diagnostic, de traitement moins invasif, d'imageurs dans le bloc opératoire. Et ça n'a été possible que par l'IHU. Et donc l'IHU, c'est assez symbolique, à une passerelle qui est reliée à l'hôpital, une passerelle qui est reliée à l'IRCAD, puisqu'elle est juste à côté. Et donc, il y a la passerelle pour l'éducation, la recherche, et la passerelle pour le malade.
Par où commencer pour découvrir l'IRCAD avec vous?
Ah bon, on va aller dans l'auditorium, la régie, parce que c'est le nerf de la guerre et le succès en fait. La régie est ouverte, Thibaut, là-haut. Donc on va voir, ça c'est le premier auditorium. Donc on a 2 auditoriums comme ça et qui sont faits surtout pour la formation des chirurgiens. Donc vous savez, on fait beaucoup de live surgery, ce qu'on appelle de transmission, on est connecté à nos blocs opératoires. Et vous voyez que chaque chirurgien, un petit peu en petit, comme au Conseil de l'Europe, il a un micro et donc il peut directement parler au chirurgien qui lui-même a un micro et explique toutes les étapes de la chirurgie, toutes les complications possibles, comment les éviter, etc. Le mythe du bloc opératoire, c'est qu'il a toujours été fermé et confidentiel pour des problèmes évidents de stérilité. Et là maintenant, le bloc opératoire s'est ouvert à l'extérieur parce que le monde de l'information lui a permis d'envoyer ses images partout.
Est-ce que cette transparence du geste chirurgical et de la pratique jusqu'alors privée du bloc opératoire a toujours été si évidente? Est-ce que...
Ah non, c'était parce qu'avant, c'était hyper... Déjà, c'était très confidentiel. Ensuite, il y avait énormément de chirurgiens qui ne voulaient pas partager leurs gestes parce qu'ils voulaient être les seuls pour des problèmes aussi économiques. C'est une évidence, mais ils voulaient être les seuls à être les meilleurs dans un domaine. Et là aussi, tout a changé. C'est-à-dire que, et notamment, je pense que l'IRCAD a joué un rôle énorme. C'est-à-dire que tout le monde a été obligé de montrer. Ceux qui ne voulaient pas montrer n'étaient pas invités. Mais les chirurgiens, c'est devenu ici un centre de réunion internationale des chirurgiens. Nous, nos chirurgiens, il y en a pas, ils n'ont pas d'honoraires, ils ne sont pas payés. Mais si jamais on ne les invite pas une fois, ils demandent pourquoi, s'ils n'ont pas été bons, etc. Donc, c'est vraiment un monde à l'envers par rapport à ce qui existait autrefois.
Hello, Houston.
Where are Houston? C'est qui gueule là? Ah, okay. So we'll switch on the other room because the people
right.
are working on the metastasis became nervous at her.
All right.
So we have Professor Olivier Soubranche at the service à Beaujon. Coucou, fais bonjour avec la main pour te voir.
Hello.
Voilà, c'est lui, Professeur Soubranche. Et puis il y a Professeur Scaton qui est où? On le voit là de profil, magnifique. Voilà. Et votre aide, présentez-vous.
C'est Dr. Dourso.
Voilà, merci beaucoup. Olivier, you have the word. We'll switch in English now and go ahead, please.
Yes, so I think you are aware about the case now.
Yes.
So there is a metastasis. We will show it to you later. And this patient has several surgical history with the proctectomy.
Et donc là encore, on voit, on est en transparence totale avec l'hôpital public, l'hôpital de Strasbourg qui est à côté, avec des caméras qui tournent en permanence dans les blocs opératoires.
Ça tourne en permanence dans les blocs opératoires, le signal externe et le signal interne. Et je suis convaincu que ça sera obligatoire dans tout le permanent, parce que c'est des surcoûts. Mais dans les 10 ou 20 ans, ça sera la boîte noire d'un hôpital. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas imaginer qu'on oblige... un avion, tout le monde le sait, mais qu'on oblige même un camionneur à avoir une boîte noire pour savoir s'il a conduit correctement, pas trop d'heures, etc. Et ne pas avoir un enregistrement permanent de toutes les données d'un acte chirurgical. C'est impensable. Donc nous, on recueille tout parce que ça nous sert pour l'éducation, mais je pense qu'un jour, ça servira aussi dans le domaine médico-légal, prouver pourquoi l'opération a été difficile, comment elle a été réalisée, etc.
Olivier, tu nous entends?
Oui.
Alors, on a Mme Élise Gruau de France Culture qui aimerait te poser une question.
Bonjour, professeur Soubranche.
Bonjour, madame.
Vous êtes en direct du bloc opératoire de l'hôpital de Strasbourg. Votre opération est retransmise ici dans le grand amphi. Et on voit exactement ce que vous voyez à l'intérieur de l'abdomen grâce à la caméra stéréoscopique.
Tout à fait.
Quelle est l'opération que vous vous apprêtez à faire?
Alors écoutez, cette opération qui est en cours d'ailleurs consiste en l'ablation de la partie gauche du foie pour une tumeur qui est une tumeur secondaire, c'est-à-dire une métastase, chez un homme qui a été opéré déjà de sa tumeur primitive, c'est-à-dire un cancer du rectum. Et aujourd'hui, eh bien, on opère une proportion assez importante de ces patients qui ont des tumeurs du foie par laparoscopie, par stéréoscopie. Voilà, donc il y a un certain nombre de petits tubes qui ont été introduits dans l'abdomen pour mettre en place d'abord une caméra et ensuite des instruments adaptés à la chirurgie du foie, c'est-à-dire tous ceux qu'on utilise d'habitude en chirurgie ouverte, mais qui ont été évidemment conçus pour pouvoir passer dans des petits tuyaux de 5 à 10 mm. On opère là, en l'occurrence, un tout petit peu lentement pour bien décomposer et montrer ce qu'on fait, les différents temps opératoires. Mais l'intervention que je réalise, évidemment, tout à fait comme celle que je fais tous les jours, en privé, si j'ose dire.
Est-ce que c'est difficile de répondre aux questions des chirurgiens qui vous regardent?
Parfois, il y a des moments en opération qui sont un petit peu compliqués, où on évite de répondre aux questions, c'est vrai, ça peut arriver. Et il faut savoir, justement, attendre quelques minutes pour répondre à la question en ayant terminé le geste précis que vous avez commencé.
Merci. Il a répondu à vos questions. Et puis, c'est aussi notre travail d'empêcher qu'on lui pose des questions quand ça dérange. Et ce qu'on fait, on coupe les microphones. Si, par exemple, il y a une difficulté technique non attendue, on coupe les microphones pour pouvoir qu'il l'opère tranquillement et on discute entre nous, les experts. So, in summary, she asked, he told her in French what was the operation. You already know it.
Où est-ce que nous allons maintenant?
Alors, ben là, on va au troisième étage. Troisième étage, c'est là où il y a le bloc chirurgical expérimental, vous allez voir, qui est exceptionnel, qu'on a complètement rénové d'ailleurs cet été. Pour la petite histoire, c'est parce que le bloc expérimental du Brésil était tellement beau que le nôtre qui avait 20 ans, il était pourtant déjà top, mais il ne pouvait pas concurrencer avec le Brésil. Donc, et ça, c'est assez extraordinaire puisque vous voyez là, ce bloc, il a été refait en 2 semaines et demie au mois d'août. Et alors le bloc, il est transparent parce que depuis le début, vous parlez de transparence, etc. Toute cette nouvelle chirurgie, elle est transparente. Tout le monde la voit, tout le monde la voit sur les écrans. Donc on a voulu faire quelque chose de très transparent. Là, vous voyez, il y a 20 tables, hein, c'est énorme en formation. Et donc vous voyez que par table, vous avez toujours un tuteur, c'est-à-dire un chirurgien senior qui explique comment faire, comment améliorer le geste. Et puis on a aussi des techniciens des compagnies qui expliquent comment se servir de ces... C'est comme une voiture hyper sophistiquée. Un chirurgien, il y a 20 ans ou 30 ans, il avait son scalpel et une pincette. Voilà, donc il n'avait pas besoin de formation. Hein. Les instruments n'avaient pas évolué en 40 ans de chirurgie. Et là, tout devient de la technologie. Vous voyez que vous avez une caméra, donc il faut savoir comment vous faites le focus de votre caméra, comment vous faites pour que l'image soit la plus belle possible. Ça, c'est important. Ensuite, vous devez avoir la lumière qui arrive, qui est de la lumière froide. Il faut savoir la gérer. Ensuite, vous devez insuffler dans le corps de l'animal expérimental de l'air, parce que sinon, vous n'avez pas de place. Donc, vous avez des insufflateurs. Il faut respecter des pressions. La pression étant trop importante, vous comprimez la grosse veine qui va au cœur et vous auriez un arrêt cardiaque. Donc c'est une formation complète, à la fois de la technique chirurgicale, mais de l'environnement, qui est un environnement qu'on appelle environnement mini-invasif, qui est totalement nouveau. Et donc, et c'est pour ça qu'il y a eu le succès de cette école. Les gens, ils ont besoin et ils veulent apprendre.
Nous approchons d'une table d'opération avec des chirurgiens en train de pratiquer et d'apprendre. Hello.
Je suis originaire de Grèce, de Thessalonique dans le nord de la Grèce. C'est la cinquième fois que je viens à Strasbourg à l'IRCAD. C'est un des meilleurs centres en Europe.
Est-ce que c'est difficile ce que vous êtes en train d'apprendre ici ?
Non, parce qu'ils ont d'excellents professeurs et bien sûr, les meilleurs équipements que l'on puisse trouver. C'est vraiment une expérience très utile d'être ici.
Est-ce que vous pratiquez déjà dans votre pays la chirurgie mini-invasive ? Est-ce que vous allez pouvoir le faire maintenant ?
En réalité, en ce qui me concerne, c'est aujourd'hui très difficile, à cause de la crise financière qui frappe la Grèce, de pratiquer ces technologies pour la chirurgie mini-invasive. Mais c'est bien que je puisse venir ici pour me former.
La chirurgie mini-invasive laparoscopique, on forme des gens du monde entier et quand ils retournent, alors bien sûr quand ils arrivent chez nous dans le laboratoire expérimental que vous voyez, c'est sûr que pour eux c'est un choc hein, puisque c'est toujours la dernière génération, c'est ce qu'il y a de mieux en technologie. Mais quand ils retournent chez eux, même dans un pays en voie de développement, on s'aperçoit, il est prouvé qu'une chirurgie mini-invasive est beaucoup moins coûteuse qu'une chirurgie non-invasive. Pourquoi ? Parce que dans ces pays, ils n'ont pas l'argent pour traiter les complications. Un malade qui a une suppuration de paroi, qui est infecté, là, ils n'ont pas assez d'antibiotiques, ils ne peuvent pas le payer. Alors que la chirurgie mini-invasive, s'ils la font quasiment en ambulatoire, elle est faite pour les pays en voie de développement.
Luc Solaire, quelle est votre fonction à l'IRCAD ?
Je suis le directeur de la recherche et développement de l'Institut et les travaux que nous menons ici, c'est la chirurgie assistée par ordinateur.
Et quand on s'occupe de la recherche et du développement à l'IRCAD, concrètement, qu'est-ce que vous faites en synergie avec les chirurgiens ?
Alors, la synergie elle, se trouve au niveau du traitement d'images médicales principalement et des logiciels de guidage opératoire. Pour expliquer ça simplement, une image médicale, c'est comme une photo satellite. Donc vous voyez le principe, hein, le patient est assis sur une table entouré de capteurs qui est le scanner ou l'IRM qui tourne autour de lui. Exactement comme les satellites tournent autour de la Terre. Les photosatellites, c'est des clichés 2D qui mis les uns à côté des autres vont permettre de reconstruire la Terre en 3 dimensions. Les images médicales, c'est à peu près la même chose. C'est des clichés 2D, sauf que c'est en coupe, donc c'est pas un rond. Hein. C'est comme si on tranchait le patient. Mais à la fin, c'est la même chose. C'est-à-dire que si on arrive à extraire l'information utile, on peut reconstruire le patient en trois dimensions également. La difficulté, c'est que si je vous demande d'aller avenue du Général Leclerc à partir d'une photo satellite de Paris, vous aurez beaucoup de mal à aller avenue du Général Leclerc, parce que c'est pas la photo satellite qui va vous aider, c'est la carte. Et la carte, c'est une extraction de la photo satellite. C'est comme si on dessinait sur la photo satellite les routes et qu'on nommait ces routes. Eh bien, on fait exactement la même chose dans nos travaux. On va colorer, délimiter dans la photo satellite du patient, c'est-à-dire l'image médicale, le contour des organes, le contour des tumeurs, et on va les nommer. Et parce que ce sont des coupes, donc comme si on avait tranché le patient en coupe, en superposant chacune de ces cartes 2D, on va obtenir le patient en trois dimensions. La cartographie 3D du patient, l'image du patient en trois dimensions, c'est comme un clone numérique. Donc à partir de là, on va pouvoir préparer l'acte sans aucun risque pour le patient. Mais ça permet surtout déjà de savoir où sont les organes, quelle est leur forme, quelle est leur position.
Ils ne sont pas chez tout le monde au même endroit, les organes ?
On a tendance à dire en anatomie, tous les patients ont une anatomie similaire. La réalité, c'est que tous les patients ont une anatomie différente. Aucun patient ne se ressemble sur le plan vasculaire. Et c'est à ce niveau précis que la modélisation, c'est-à-dire le clone virtuel, la cartographie propre à chaque patient, va permettre de connaître l'anatomie propre du patient et d'éviter des erreurs liées à une anatomie générale.
Et autrefois, quand on découvrait au moment de l'acte chirurgical l'anatomie du patient, est-ce que ça entraînait des erreurs qui, du coup, aujourd'hui, sont évitées grâce à cette modélisation ?
Alors, tout à fait. Il y a une étude en 2013 qui a montré que lorsque vous modifiez une opération chirurgicale qui était planifiée avec un mode opératoire défini pendant l'opération parce que vous trouvez une variation, eh bien, vous avez systématiquement une augmentation de la morbidité post-opératoire, c'est-à-dire des complications qui sont des coûts supplémentaires pour la Sécu. Et la question, c'est quel est ce pourcentage d'opérations modifiées ? Eh bien, dans cette étude faite par une équipe qui est extrêmement pointue, extrêmement experte dans ce domaine, c'était 20% des opérations qui étaient modifiées au moment de l'intervention parce qu'ils découvraient quelque chose de non prévu. Dans notre étude, faite avec l'hôpital Cavel à Bruxelles, avec le professeur Houben, c'était 29% des opérations qui ont été modifiées grâce à l'imagerie 3D, grâce à la modélisation 3D du patient, et qui permettait au chirurgien, avant même de faire l'acte, de voir ces variations. Ce qui veut dire que pendant l'opération, il n'y avait pas de modification grâce à ce travail préalable. Donc ça change beaucoup de choses. Dernier exemple, qu'on comprend très souvent, c'est un enfant de 18 mois, une énorme tumeur de 17 cm dans l'abdomen, qui va jusqu'au pelvis. Donc 17 cm, vous imaginez, sur un bébé de 18 mois, c'est gros. Préparation de l'opération sans le modèle 3D. L'opération était prévue pour plus de 4 heures. Modélisation en 3D, on voit parfaitement la localisation de la tumeur, on voit parfaitement où elle est accrochée. Résultat, l'opération a duré 40 minutes. Donc vous voyez, on gagne sur tous les tableaux, on fait moins d'erreurs puisqu'on prévoit tout à l'avance et on peut mieux préparer l'acte et donc réduire parfois le temps opératoire.
Patrick Pessot, donc professeur de chirurgie à l'Université de Strasbourg, responsable de l'unité de chirurgie hépato-biliaire du nouvel hôpital civil, directeur des projets de l'IHU.
Patrick Pessot, quelle est l'expérience que vous avez menée hier ? Quelle est cette nouvelle opération que vous avez menée ?
Alors, hier, nous avons réalisé une première expérience de ce que l'on appelle la réalité augmentée, c'est-à-dire de permettre pendant un acte opératoire, de se guider par une imagerie qui a été faite en préopératoire, que ce soit un scanner, une IRM, et que l'on puisse avoir en transparence, donc là c'était une intervention sur le foie, en transparence le guidage de cette imagerie, un petit peu comme quand vous conduisez aujourd'hui, que vous avez un GPS qui vous montre la route, eh bien c'est exactement le même principe, de pouvoir avoir pour un foie qui est opaque, en transparence, toutes les structures que l'on va rencontrer. Donc là, on a une vue opératoire qui montre le foie. On a mis une caméra dans le foie, dans l'abdomen pour voir les structures. Le foie est un organe complètement opaque et donc on ne voit ni les vaisseaux, ni les structures biliaires, ni la tumeur. Le modèle à partir du patient du scanner est reconstruit et au moment où on a besoin, peut-être surimprimé sur le foie, donc on projette à l'intérieur en transparence ce modèle. Donc comme là vous voyez, on peut voir en vert la tumeur qui est donc de façon artificielle visible parce qu'elle est en transparence. On a mis autour de la tumeur une marge de résection de 2 cm ce qui permet de guider la démarcation et comme ça le chirurgien sait exactement la zone à retirer car dans cette chirurgie-là, comme c'est fait sous célioscopie, il n'y a plus la main du chirurgien pour palper, pour sentir la tumeur. Et cette superimposition de l'image, quand on en a besoin, vous voyez, on peut la retirer, on peut la remettre, permet de guider au mieux la résection. Et vous voyez sur la pièce qui a été retirée, on voit la tumeur qui était bien au centre, parfaitement de la zone retirée.
Qu'est-ce qui est difficile à maîtriser avant de pouvoir passer sur un patient humain ?
Tous les paramètres que je vous ai dit, l'automatisation, la déformation, les mouvements respiratoires, tout ça, c'est des calculs algorithmiques compliqués. Et il faut que ces systèmes soient le plus précis possible parce que si je mets une aiguille dans le foie et que j'ai 1 cm de différence par rapport à la tumeur, ça ne va pas être bon du tout. Donc là, on est dans toute cette phase d'évaluation pour avoir une précision le plus fin possible afin pouvoir passer de façon un peu plus routinière sur le patient.
Luc Solaire, vous nous avez montré donc la modélisation 3D du corps des patients et de leur tumeur à l'intérieur. En quoi la présentation de la tumeur à un patient l'aide-t-il à appréhender sa maladie, le traitement, l'opération qui l'attend ?
Alors, le fait de connaître sa pathologie, ça va dépendre des patients. C'est-à-dire que vous avez des patients qui ne veulent rien savoir, et qui préfèrent vous faire aveuglément confiance. Ils sont de moins en moins nombreux. Et puis, vous avez les patients qui veulent, à l'inverse, avoir le maximum. Et l'avantage de ce que l'on propose avec cette image 3D, c'est que le patient comprend parfaitement où est située sa pathologie, quelle est la difficulté, pourquoi pas, de l'acte ou de la thérapie, et quelles sont aussi ses chances. Parce que c'est aussi un élément important. L'avantage de l'image, c'est que tout devient facilement explicable. Et le fait de comprendre rassure le patient. Le fait de pouvoir avoir accès à la connaissance réduit les peurs et réduit d'ailleurs pas mal d'autres problèmes associés aux peurs que l'on connaît très bien en ce moment. Donc, au niveau des images, c'est la même chose. Le patient va donc pouvoir appréhender de façon efficace sa pathologie et donc mieux combattre sa maladie, c'est-à-dire accepter le traitement et être acteur lui-même de son traitement. Parfois, ça peut être l'effet inverse. Il faut bien le dire aussi. C'est-à-dire que parfois, à partir de l'image, on peut dire « désolé, il n'y a pas de thérapie ». Et on peut expliquer pourquoi. Mais c'est tout aussi important, parce que un patient qui est persuadé qu'il y a quelque chose à faire, et vous ne pouvez pas lui expliquer pourquoi ce n'est pas possible de faire quelque chose dans ces conditions, et bien il va courir après des marchands de rêves qui vont peut-être lui faire espérer des thérapies qui ne sont absolument pas fiables. Et là encore, je pense qu'il est essentiel d'être honnête avec ses patients, de leur dire la vérité et de leur montrer, c'est autant que possible, qu'ils puissent comprendre. C'est un outil magnifique pour comprendre.
Voilà. Où est-ce qu'on est maintenant ?
Là, on arrive sur une autre plateforme, plus calme, vous le voyez, qui est la plateforme de formation en robotique chirurgicale. Alors, ce qu'il faut déjà voir, c'est que c'est unique déjà par le nombre de robots qu'il peut y avoir, puisqu'on a 7 robots et 10 consoles. Donc c'est vraiment un partenariat avec l'industriel. Hein. Il faut imaginer qu'un robot comme celui-là de dernière génération vaut approximativement 2 millions d'euros. Donc l'IRCAD, l'Institut, n'a jamais acheté. C'est toujours en partenariat avec un industriel.
Et qu'est-ce que c'est que ces robots ? Qu'est-ce qu'ils font ?
Alors, ces robots, on va aller les voir, là. Donc, c'est amusant. C'est vraiment la définition. Bonjour. La définition de ce qu'on vous avait dit, c'est une relation maître-esclave. Donc vous voyez le chirurgien, qui est une chirurgienne d'ailleurs, elle est sur une console et elle a les yeux qui sont immergés dans l'ordinateur. Elle est à distance, ici vous le voyez, de l'animal expérimental qui est opéré, elle a 5 mètres. Mais là encore, elle pourrait avoir 1 km, 2, 1000 km, ça ne change rien du tout. Et elle va actionner, vous le voyez, les différents bras, qui sont les bras armés du robot, qui vont eux-mêmes définir le placement de ce qu'on appelle les effecteurs, c'est-à-dire la pincette, le ciseau, qui va faire le geste chirurgical. Mais le geste est fait par le chirurgien. Il n'y a pas de robotique autonome. C'est vraiment pour ça qu'on insiste en disant relation maître-esclave, chirurgie assistée par ordinateur. Parce qu'on est à la préhistoire de la robotique. Imaginez la robotique dans 30 ans, la moitié des gestes va être automatique, ça va être du semi-automatique. Le chirurgien, il va plus préparer son opération sur le clone virtuel du malade, en réalité virtuelle, parce qu'il aura le droit à l'erreur. Et puis il va mettre bout à bout toutes les scènes de chirurgie virtuelle de façon à faire l'opération idéale. Quand on a été jugé pour notre premier article là-dessus, c'était 1998, celui qui nous a jugé, c'était le chairman de Stanford, qui disait ce qu'ils sont en train de faire à Strasbourg, c'est comme un metteur en scène qui fait un film. Il fait plein de petites scènes, elle n'est pas belle, il la jette, il la refait, etc. Et ensuite, il met toutes les scènes bout à bout pour avoir le film idéal. Ben, ce qu'on fait là en robotique, ce qu'on fera demain, c'est exactement ce que fait un metteur en scène. On aura le droit à l'erreur, on mettra bout à bout la scène idéale de la meilleure opération, et ça sera l'opération idéale, en espérant qu'un jour, ce sera une opération à zéro risque.
Et juste à côté de cette chirurgienne en train de travailler sur sa console sous cet écran vidéo, on est à 2 mètres sur...
Alors on est à 2 mètres sur l'autre partie du robot qu'on appelle la partie esclave. Regardez comme ça bouge à l'extérieur, tout bouge, mais au bout, à l'intérieur, vous n'avez pas un millimètre où l'instrument bouge. Donc ça c'est la force de la robotique. Et actuellement, les robots sont de plus en plus performants. Bien sûr, ils vont diminuer en taille quand même, ils vont augmenter en stabilité. Mais surtout, dans ce que vous voyez là, la partie mètre, vous allez avoir énormément d'informations qui vont arriver au chirurgien, qui n'existaient pas avant, puisque la seule information qu'il avait, c'était uniquement l'image de ce qu'il voyait.
Là, quand on en est à ce stade de réalisation robotique et de collaboration entre le chirurgien et le robot, vous, professeur Maresco, de quoi rêvez-vous en plus ?
Moi, je rêve de deux choses. D'abord que, effectivement, dans cette partie maître, vous ayez toutes les informations de réalité virtuelle, de réalité augmentée, qui permettent aux chirurgiens d'avoir comme un GPS dans une voiture. Là encore, une voiture, au début, tout le monde disait « moi, je peux conduire sans GPS, avec les cartes ». Bon, maintenant, plus personne quasiment n'arrive à conduire dans un endroit compliqué. Donc, le GPS, ensuite la réalité augmentée, voire en transparent, tout ça, on va l'avoir dans cette partie-là. Donc, ça, c'est déjà un des souhaits. Le deuxième, c'est de se dire que ce robot que vous voyez, qui est piloté par la main, sera automatique, c'est-à-dire que tous les bras que vous voyez bouger vont bouger parce que la préprogrammation aura été faite. Alors vous allez me dire, c'est pas possible, la chirurgie, etc. Tous les chirurgiens conservateurs le disent, mais regardez l'évolution de l'aéronautique. Tout le monde a dit, on peut pas imaginer qu'un avion décolle seul, atterrisse seul, mais on s'aperçoit qu'il démarre, et qu'il atterrit de manière beaucoup plus sophistiquée que quand il était conduit par l'homme, même si le pilote était parfait. Donc c'est une évolution inéluctable des technologies de l'information, même si c'est long.
Vous avez donc, c'est un peu pour ça qu'on a mis deux mains droites aujourd'hui, c'est pour pouvoir travailler avec le bras numéro 3. Donc ça c'est l'utérus gauche, ouais, ça ressemble vraiment à du grain. Et là je vous cherche le vagin, le voilà.
Et si les nouveaux chirurgiens se forment avec un geste assisté par ordinateur, donc sont moins habiles à main nue, est-ce que ça ne crée pas une dépendance vis-à-vis de la machine dont on ne pourra plus jamais sortir pour réopérer au bistouri et à la pincette ?
Ça, c'est une très bonne question qui est posée dans tous les congrès d'évolution des technologies. Avant, on disait non parce que effectivement, quand on formait nos internes, il n'y avait que, par exemple, 30 ou 40% de chirurgie qui était faite de façon mini-invasive, même sans le robot, en chirurgie laparoscopique, et le reste en chirurgie ouverte, donc ils pouvaient se former. Ce qu'on est en train de voir, c'est que la chirurgie mini-invasive, dans les services qui en font beaucoup, comme notre service, c'est plus de 80%. Donc ça veut dire que les internes et les chefs de clinique ne sont formés qu'à 20% de la chirurgie conventionnelle. La robotique arrivant là-dessus, je n'ai pas encore la réponse sur la manière dont on va devoir former les jeunes générations pour que, en cas de complication, quand ils sont obligés, bien sûr, d'arrêter le robot et d'ouvrir le malade, ils aient la même reconnaissance de l'anatomie et des gestes. Une question ouverte, je vous dis, tous les congrès, toutes les sessions éducation, tous les experts s'entretuent en ayant une autre réponse. C'est sûrement pas encore totalement résolu.
Oui, c'est une réelle préoccupation.
C'est une préoccupation.
Ça. Et à celle-ci s'ajoute aussi la dépendance à des financements pour entretenir ces machines, une dépendance à l'industrie lourde.
Alors là où vous avez tout à fait raison, c'est que il y a un coût, il y a un surcoût du robot. Maintenant, le problème, il n'est pas là. Le problème, il est de démontrer la supériorité du robot par rapport à l'absence de robot. Le jour où vous démontrez, alors même si on dit 2 millions d'euros, etc., pour un robot, etc., c'est cher. Non, il ne faut pas dire c'est cher. On ne sait pas si c'est cher. Ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'il va y avoir moins de complications, puisque la complication est le surcoût. Donc, même si quelque chose est cher, c'est-à-dire 2 millions d'euros, si ça vous diminue de 10 ou de 20% une complication, mais vous avez largement amorti une nouvelle technologie. Donc, tout est le problème. Et ça, c'est un des gros focus de l'IHU, c'est de faire toujours une analyse médico-économique d'une nouvelle technologie. Qu'est-ce qui est acceptable pour la société, pour un hôpital? Quel est le bénéfice et le cost effectiveness des Anglais? Est-ce qu'il y a un réel bénéfice pour le malade? Est-ce que ça vaut le coup de mettre un peu plus d'argent parce qu'on va le gagner quelques mois après?
Bonjour, je suis Baymax, votre assistant médical personnalisé. J'ai reçu une requête de soins médicaux quand vous avez dit... Aïe!
Un infirmier robotique.
Sur une échelle de 1 à 10, quel est votre degré de douleur?
Douleur physique ou émotionnelle?
Je vais maintenant vous scanner. Scan terminé.
Donc Luc Soler, vous dirigez une équipe d'ingénieurs et de développeurs informaticiens. Quels sont les horizons de recherche que vous espérez résoudre et voir se réaliser aujourd'hui?
Notre futur et notre rêve, entre guillemets, ça serait que demain le patient vienne avec un cancer, il fait un scanner, on le reconstruit en 3D, donc ça on l'a fait, vous l'avez compris, mais que surtout on arrive à le traiter aussi vite, c'est-à-dire le jour même, avec des systèmes robotisés qui vont être automatisés, un peu comme la Google Car qui conduit toute seule. L'idée, c'est qu'on ait des systèmes qui puissent traiter la thérapie de façon mini-invasive, voire non-invasive, par exemple de l'ultrason focalisé, ou par une aiguille qui est plantée dans le patient et qui vient brûler la tumeur, ou par un axe chirurgical mini-invasif, optimisé et guidé par l'image, et robotisé, c'est-à-dire en fait que c'est le robot qui va faire l'acte. Le chirurgien va utiliser l'image virtuelle du patient pour simuler l'acte opératoire, donc il va s'entraîner sur un simulateur, il va choisir par où passer les outils, aucun risque pour le patient. À la fin, il choisira les bons gestes et ces gestes seront envoyés au robot qui reproduira ces gestes sur le patient en tenant compte évidemment de ce qui se passe en vrai, c'est-à-dire le patient qui respire, les déformations, etc. Tout ça en temps réel, en automatique, comme une voiture conduit automatiquement sur une route, c'est le même principe. Vous lui dites où aller avec le GPS, ben là on lui dira où aller avec le modèle 3D et le GPS et le robot réalisera l'acte pour nous de façon optimale. Et donc notre rêve, c'est qu'un patient qui aura un cancer demain puisse imaginer un jour arriver au travail avec un jour de retard, donc il a été absent un jour, et le collègue lui dit bah, « qu'est-ce qui t'est arrivé? T'étais pas là hier ?» Il dira bah, « oui, j'avais un cancer, je me le suis fait retirer hier. » Ça, c'est notre rêve.
C'était Révolution numérique au bloc opératoire, avec les professeurs Jacques Maresco, Patrick Pessot, Luc Soler, Olivier Soubran, Cheng Ngai Tang et Alain Patron. Un grand remerciement à Marie Aubringer. Attachés d'émission Christine Bernard et Alison Sinard, coordination Irène Omelianenko, un documentaire d'Élise Gruot et François Test pour Sur les Docs.
Documentaire à réécouter, à télécharger sur franceculture.fr.